Êtes-vous prête pour la prédication ce matin que j'ai préparée pour vous? On va commencer avec un mot de prière, si vous voulez bien. On va se recueillir un instant. On va tourner nos cœurs vers Jésus alors que je vais apporter ce message. Seigneur, nous venons tous ensemble devant toi, ton Église, ce matin. On vient, mon Dieu, on vient préparer nos cœurs. On ouvre nos cœurs à ta parole aujourd'hui. Seigneur, je prie que tu fasses une œuvre puissante ce matin. Je prie, Seigneur, qu'au-delà des paroles que je vais dire, que le Saint-Esprit puisse être agissant ici même, dans le cœur de chaque homme, chaque femme, chaque jeune, chaque personne dans ce lieu qui va entendre ce message. Seigneur, viens nous parler, viens nous fortifier. Viens, Seigneur, faire une œuvre qui est profonde, qui est vivante, qui est puissante. On a tellement besoin de toi, Seigneur. On a tellement besoin de toi, Seigneur. On ne veut pas un autre sermon, un autre discours. On veut un moment avec Dieu aujourd'hui. On veut un moment cœur à cœur avec Jésus, ici même à l'Église. Seigneur, c'est toi qui fais toute la différence dans nos vies. Alors, Seigneur, je te donne ces instants au nom de Jésus. Toute l'Église dit amen. Amen. Ce matin, tournez dans votre Bible, si vous avez votre Bible, dans le livre de Daniel, au 3e chapitre, et si vous ne l'avez pas, ça va apparaître à l'écran. Et aujourd'hui, le titre de mon message est « Tu n'es pas seul dans le feu ». Tu n'es pas seul dans le feu. Et si vous connaissez votre Bible, vous savez déjà un peu où est-ce que je m'en vais, avec le titre et aussi avec Daniel 3. On s'en va découvrir ensemble un chapitre qui nous rapporte une histoire qui est absolument formidable. En fait, c'était le peuple de Dieu qui, dû à leur désobéissance, ont été déportés en exil et ils sont maintenant à Babylone. Et là, il y a un roi qui s'appelle le beau nom de Nebuchadnezzar. Dis ça trois fois, Nebuchadnezzar. C'est un nom assez spécial quand même. Et alors qu'ils sont là, ce roi-là va prendre une décision. Il va prendre une décision qui va pousser quelques Juifs de là-bas à prendre une décision. Et on va lire ensemble plusieurs versets ce matin. On va lire le chapitre au complet lors de la prédication. Et je t'invite à ouvrir ton cœur. Dieu veut te parler ce matin. Il y a quelque chose pour toi dans ce message. Et on va lire à partir du verset 1. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue en or, haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit rassembler les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'il avait dressée. Alors, les administrateurs, les intendants, toute cette gang-là, se rassemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Et se tinrent debout devant la statue que le roi avait dressée, et un héros cria à pleine voix : Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation et hommes de toutes les langues. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse, même de la cornemuse, et des instruments de musique de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Voici comment on débute une religion pour s'assurer que ça marche. Ça, c'est vraiment la meilleure façon de partir d'une religion. On continue. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, la flûte, la guitare, la petite et la grande harpe, les instruments de musique de toutes sortes, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues se prosternèrent et adorèrent la statue en or que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. À ce moment-là, profitant de l'occasion, quelques Babyloniens se présentèrent pour accuser les Juifs. Des stouleux, mon ami. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar : Roi, puisses-tu vivre toujours ? D'après l'ordre que tu as toi-même donné, tous ceux qui entendaient le son de la trompette, la flûte, la guitare, la petite, la grande harpe, la cornemuse, les instruments de toutes sortes, devaient se prosterner et adorer la statue en or. Et d'après le même ordre, si quelqu'un ne se prosternait pas pour adorer la statue, il devait être jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs que tu as confiés à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre. Ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent pas la statue en or que tu as dressée. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent donc amenés devant le roi. Alors ici, on a une histoire assez spéciale. Tu as un roi qui est un peu, beaucoup imbu de lui-même, qui fait bâtir une statue immense, okay, 30 mètres de haut, c'est vraiment très, très haut, 30 mètres de haut. Et là, il va dire à tout le monde, de tous les peuples qui lui sont soumis, tout le monde qui est là, voici, lorsque le band va jouer de la musique, vous allez devoir vous prosterner et adorer la statue. Tout le monde doit le faire. Tout le monde, sans exception. Si quelqu'un ne fait pas cela, il va être pitché dans la fournaise ardente. Un genre de four immense, chauffé à extrémité, où on pitchait le monde dedans pour qu'il meure, brûlé vif. Situation incroyable. Et là, il y a quelqu'un qui va aller rapporter au roi qu'il y a trois personnes. Shadrach, Meshach et Abednego. Ces trois hommes-là, qui ont des beaux noms également, qu'eux ont refusé de se prosterner devant la statue, qui eux ont choisi de ne pas adorer d'autres dieux que le seul et vrai Dieu. Et ce qu'on découvre ici en débutant ce message, c'est que ce que Dieu demande de moi, ce que Dieu demande de toi ce matin, c'est une adoration qui est exclusive. Dieu ne veut pas être partagé avec quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas adorer Dieu et aussi adorer un autre Dieu ou adorer autre chose ou quelqu'un d'autre dans ta vie. Et on vit dans un système et dans un monde qui est anti-Dieu, qui est anti-Christ, qui sournoisement voudrait nous détourner de la pureté et de la beauté de l'Évangile par toutes sortes de mentalités, idéologies, athéisme, humanisme, fausses religions. Et quand ce n'est pas la société qui nous pousse loin de Dieu, c'est notre propre cœur pécheur qui parfois a envie d'aimer autre chose plus que Dieu. L'idolâtrie, hein, quand on dit de ne pas être idolâtre, bien sûr, la plupart d'entre vous et d'entre nous n'avons pas une statue que nous adorons chez nous dans notre garage. Okay? Si tu as ça, viens me voir après, on va prendre un rendez-vous ensemble. On va discuter de cette situation. Mais l'idolâtrie en 2021, c'est lorsqu'on aime quelque chose et qu'on fait penser quelque chose ou quelqu'un avant Dieu. Dieu veut être le premier dans ta vie. Dieu veut être au sommet et au sommet de l'amour que tu as. Dieu veut être ton Dieu et le seul Dieu. Et il y a toutes sortes de pièges dans ce monde qui feraient en sorte que Dieu ne serait pas le centre et le sommet de ton Dieu et le sommet dans ta vie. Lorsque le travail prend toute ta place, la place dans ta vie, hein, il prend la place de ta vie de prière, prend la place peut-être de ton implication de l'Église, que tu ne vis que pour travailler, ça peut devenir une idole dans ta vie. Lorsque ton amoureux, ton amoureuse prend également toute la place dans ton cœur, tu l'aimes tellement et ça te pousse peut-être à renier certaines valeurs que tu as envers Dieu, ça peut devenir une idole dans ta vie. Lorsque tu es obsédé par faire de l'argent, plus d'argent, la réussite entrepreneuriale, financière, ça peut aussi être une idole dans ta vie. Lorsque tu gardes tes croyances de chrétien, mais que tu y incorpores toutes sortes de pensées nouvelles âgeuses, de tarot, des énergies, des pierres, des taux de vibration, le reiki et tous les trucs de méditation, etc. Lorsque tu incorpores tout ça à ta vie chrétienne, tu es en train de vivre une forme d'idolâtrie. Lorsque tu es chrétien, croyant, mais que tu gardes aussi tes racines que tu as apprises quand tu étais jeune, que tu pouvais quand même prier Marie, par exemple, ou prier les saints, ou prier les morts, tu vis une forme d'idolâtrie. Aujourd'hui, la vérité, c'est que le Seigneur t'appelle à l'aimer de tout ton cœur et à le servir lui seul comme Dieu de ta vie. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime et Dieu peut libérer notre cœur de toute forme d'idolâtrie qu'il pourrait y avoir. N'importe quoi peut prendre la place de Dieu dans ta vie. Et aujourd'hui, ce que je t'invite à faire, c'est avoir, est-ce que dans ma vie secrète, je me prosterne devant un autre Dieu? Est-ce que, peut-être que ça ne se voit pas ce matin, mais est-ce que je fais penser quelqu'un à quelque chose avant Dieu dans mon cœur et dans mon amour et dans ma passion? On peut être des êtres humains qui ont des passions, qui aiment des choses, mais Dieu veut être le seul et l'unique dans ta vie. Une adoration qui est exclusive. Matthieu 4, 10 nous dit, Jésus lui dit, « Alors retire-toi, Satan, en effet, il est écrit, car c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, c'est lui seul que tu serviras. » Deutéronome 34, 14 nous dit, « Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. » Il est un Dieu jaloux. Et ce n'est pas que Dieu est immature puis jaloux, non. Dieu est jaloux dans le sens qu'il veut que tu l'adores lui seulement, qu'il soit le seul dans ta vie et dans ton cœur. Et ce matin, la première question que je nous pose, est-ce que Jésus est le seul dans mon cœur? Est-ce que Jésus est celui que j'adore vraiment? Est-ce qu'il est le centre de ma vie? Première question qu'on se pose ce matin. Et je prie qu'on puisse aujourd'hui prendre une décision de dire, moi, je veux aimer le Seigneur avant tout. Moi, je veux servir le Seigneur avant tout. Je veux rien qui prenne la place de Dieu dans mon cœur. Est-ce que je peux entendre un amen? Une adoration qui est exclusive. Mais l'histoire ne se termine pas là, bien sûr. Ça devient hot bientôt. Vous allez comprendre pourquoi. Verset 14. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux? Et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée? » Là, il ne leur laisse pas le temps de répondre, regardez bien. « Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, la flûte, la guitare, la petite, la grande harpe, le band de musique, vous comprenez, hein? Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jetés au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? » Effronté un peu, lui, hein? Il ne connaît pas encore le vrai Dieu. Pourtant, il a déjà eu une expérience avec ce vrai Dieu-là dans les chapitres précédents. Il n'a pas appris encore. Il n'a pas encore tout compris, ce monsieur-là. Il va dire, les gars arrivent, hein, le trio arrive, il va leur dire, là, je vais repartir le band, là, puis t'es mieux d'adorer mon Dieu. T'es mieux de te prosterner devant la statue. Puis la Bible dit qu'il était fâché, qu'il était irrité. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez dans la fournaise. Il n'était pas content. Il était enragé. Il n'était pas content. Puis là, il va dire, « Puis quel Dieu va vous délivrer de ma main? » Nous, on connaît la réponse. On sait que le Dieu, le seul Dieu, le vrai Dieu, va, je ne veux pas voler de punch, là, je m'excuse. Là. Il y a toujours quelqu'un, quand tu vois un film, qui vole un punch. « Et là, tu vas voir, livre, il va mourir. Ah, dis-moi le pas! » Mais je vole un peu le punch. Dieu va les sauver. Dieu va les protéger. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? Le seul vrai Dieu va les délivrer de ton pouvoir, monsieur Nebuchadnezzar. Et on continue ici, verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar et j'aime leur réponse. Tu sais, là, quand tu lis un texte de la Bible, ça te donne des frissons, là. Ça t'arrive-tu des fois, là? Ouh, OK, on y va. Vous êtes prêts? Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Combien vous trouvez qu'ils sont courageux, ces gars-là? Écoute, tu as le roi, toutes les multitudes qui se prosternent devant la statue en or, puis eux, ils disent, « Yo, le roi! Nous autres, là, on ne va pas se prosterner devant ta statue. » C'est ça qu'ils disent. Je vulgarise un peu, bien sûr. On ne va pas se prosterner. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Puis même s'il ne le faisait pas, même si mon Dieu ne me délivrerait pas, je ne vais pas me prosterner devant ta statue. Je vais adorer mon Dieu. Dites avec moi, « Wow! » J'aspire à ça. J'aspire à avoir une foi aussi forte et aussi grande que Shadrach, Meshach et Abednego. J'aime ça dire leur nom, je trouve qu'ils ont des beaux noms. J'aspire à avoir une foi comme ça. Et ce matin, j'ai une proposition à vous faire. Alors que je priais, que je préparais ce message, C'est comme si le Seigneur a attiré mon attention sur un détail. Jamais dans la Bible, on voit, par exemple, que Meshach allait faire telle affaire, ou que Abednego fait telle prière, ou que Shadrach se prosterna. Non, à chaque fois qu'on dit Shadrach, il y a toujours les deux autres après. On dit toujours, ça vient par trois, OK? Shadrach, Meshach et Abednego. Exercice de diction, on va dire ensemble. Vous êtes prêts? Un, deux, trois, go. Shadrach, Meshach et Abednego. Vous êtes quand même vraiment bons, là. Vous pourriez faire des acteurs incroyables. À chaque fois qu'on dit leur nom, c'est toujours ensemble. Toujours les trois. Jamais tout seul. Jamais un est pris à part des autres. Et ça nous révèle quelque chose, parce que plusieurs fois, leur nom est mentionné dans la Bible. Et à chaque fois, c'est les trois. Tac, tac, tac. J'aimerais vous proposer ce matin qu'une des raisons pour laquelle ils se sont tenus forts pour Dieu comme ça, c'est à cause de leur amitié, à cause de leur unité, à cause du fait que ces trois hommes-là se tenaient ensemble. Ils étaient ensemble pour affronter le roi, ensemble pour obéir à Dieu. Peut-être que s'ils avaient été séparés, ils auraient aussi obéi au roi, je ne sais pas. Mais ce qu'on sait, c'est que la triade, les trois ensemble, les buddies ensemble, les amis ensemble, ont réussi à se tenir devant le roi et à ne pas broncher dans leur foi. Et ce que je te propose aujourd'hui, la pensée que je te propose, c'est que Dieu ne veut pas que tu sois seul. Dieu veut que tu aies des buddies dans la vie. Dieu veut que tu aies des amis. Dieu veut que tu aies des gens avec qui tu vas te tenir dans la foi, des gens avec qui tu vas prier, avec qui tu vas, quand ça ne va pas, avec qui tu vas pouvoir parler, ouvrir ton cœur. Dieu ne veut pas que tu sois seul dans ta vie chrétienne. Dieu a toujours, depuis le début de l'Église, Dieu a toujours voulu que nous soyons une communauté, que nous soyons un corps. Si vous connaissez votre Bible, vous savez que j'ai raison. Que nous soyons une famille. Mais ça, ce n'est pas juste des termes génériques qu'on dit de même. Ça implique des liens entre nous. Vous êtes toujours là? Dieu ne veut pas que tu sois seul ici, que tu écoutes le message et que tu repartes. Dieu veut pour toi que tu crées des liens authentiques avec des gens dans ton Église. Et ça ne se fait pas par hasard. Ça ne se fait pas toujours de façon naturelle. Certains vous allez me dire, mais moi, je suis un peu sauvage, je suis un peu gêné, j'aime ça être tout seul. Bon, c'est correct, je te respecte, mais Dieu t'appelle quand même à passer par-dessus ces petits inconforts et à découvrir des gens ici et à développer des liens, des amitiés. Ne reste pas seul. Il y a une force dans l'unité. Il y a une force dans la connexion les uns avec les autres. Tu peux dire amen n'importe quand que ça te tente de dire amen. Acte 2, 42 nous dit ceci. Quand on parle des premiers chrétiens, de la première Église, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, hein, le partage, la fraction du pain, et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient tout seuls chez eux. C'est ça qui est écrit, hein? Tous ceux qui croyaient étaient tout seuls chez eux. Non, ils étaient ensemble. Pas juste Shadrach. Shadrach, Meshach, Abednego. Les trois ensemble, avec Dieu avec eux, étaient une force incroyable pour résister, pour avancer. Ils étaient ensemble. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient et avaient la faveur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. On a une clé ici, plusieurs clés de croissance. Pour l'Église, on veut des âmes sauvées, on veut voir Dieu agir. Est-ce qu'on est prêt à devenir la communauté que Dieu veut qu'on soit? est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est rendu là? Parce que ça demande un effort. Notre société est pour la plupart individualiste, où on fait nos affaires, on tolère à la limite quelques personnes dans notre entourage, mais le Seigneur nous appelle à grandir là-dedans, puis je me prêche à moi aussi, là. Le Seigneur nous appelle à grandir là-dedans, à créer des liens sincères et authentiques avec des frères, avec des sœurs, avec des gens qui nous entourent. Pas obligé d'avoir 50 meilleurs amis à l'église, là. C'est pas ça que je veux dire. Okay? Pas obligé d'être ami, de connaître tout le monde, mais le point est, ne reste pas seul. Va vers les autres. Trouve quelqu'un avec qui tu vas pouvoir communiquer, prier, avoir du bon temps ensemble. Genèse 2:18 nous dit, l'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Il y a cette pensée-là ici que Dieu ne veut pas qu'un être humain soit tout seul. Dieu ne veut pas que tu sois tout seul. Bien sûr, ce texte s'applique au couple. Hein, un homme, une femme ensemble, le plan de Dieu magnifique pour le couple, pour le mariage. Mais ça s'applique aussi à chacun d'entre nous. Dieu ne veut pas que tu sois seul. Dieu ne veut pas que tu souffres seul. Quand les tentations viennent dans la vie, et ils viennent dans la vie, on a besoin d'aide, d'accompagnement, de quelqu'un à qui on peut s'ouvrir. Quand la douleur frappe, quand la maladie frappe, on ne veut pas être seul. Et j'ai prié que dans cette église, qu'on puisse être des champions à tisser des liens les uns envers les autres, des liens sincères, et envers nous, mais envers tous ceux que le Seigneur va nous amener aussi. Qu'on puisse être ouvert envers les autres, aller vers l'autre qui est peut-être un peu différent de nous des fois. Il y a une force dans l'amitié, il y a une force dans les relations, il y a une force puissante lorsqu'on peut s'entraider l'un et l'autre. Lorsque quelqu'un tombe, l'autre peut le relever. Lorsque quelqu'un s'éloigne de Dieu, l'autre peut aller le rechercher, peut lui parler, peut prier, peut l'aimer. Combien vous aimez faire de la randonnée pédestre en forêt? C'est tellement le fun, hein? Ceux qui aiment ça, ceux qui n'aiment pas ça, bien, je vous aime quand même, tu sais. Je vais avoir une relation avec vous quand même. Vous êtes quand même l'Église, la famille de Dieu. Mais j'aime ça marcher en nature. C'est le fun de marcher en nature, les arbres, le bonheur, la forêt, des fois le bord de l'eau, les plantes, les fleurs, des fois. C'est bon pour le cœur. J'étais dans Charlevoix, je marchais en famille, une belle randonnée, et le sentier était vraiment pas bien entretenu à ce sentier-là spécifiquement. Et il y avait des pentes, bien sûr, dans Charlevoix, il y a des pentes et des côtes. Et j'avais un petit garçon qui s'appelait Élisée, qui est mon garçon, qui était tout petit, tout jeune. Et alors qu'on marchait ensemble, et que lui il regardait partout sauf là où il marchait, il a glissé. Il y avait une falaise comme ça, là, vraiment très, très abrupte, très, très longue. Il a marché, puis il regardait un peu n'importe où, comme un enfant capable de le faire. Et il est parti en glissant comme ça. J'étais là, on était ensemble, on était les quatre ensemble, j'étais à côté de lui. Et lorsqu'il a glissé comme ça, c'était vraiment une falaise qui était très, très abrupte, très, très haute. J'ai eu le réflexe d'un papa de l'agripper. Il a glissé, hop, tout de suite. Je l'ai pris par le bras il était comme ça. Il avait vraiment peur, il était très apeuré. Je l'ai tiré avec ma force herculéenne, bien sûr. Je l'ai tiré, et là, il était vraiment sous le choc un peu. Et pour le restant de la randonnée, il marchait de l'autre bord du ravin, puis main dans la main avec son papa, okay? Pour pas que ça réarrive. Et quand on est seul et qu'on tombe, là, on tombe. C'est plus difficile de se relever. Mais quand on est proche de quelqu'un, si je suis ami avec Francis, puis que Francis ne va pas bien, puis que je le remarque, puis qu'il s'est éloigné de Dieu, puis c'est toutes des affaires qui sont fictives, là, mais qu'il s'est éloigné de Dieu, puis qu'il ne vient pas à l'église, puis qu'il ne parle pas à sa femme, puis c'est mon ami, je vais aller vers lui. Je vais aller vers toi. Je ne te manquerai pas. Puis, je vais aller le rechercher. Je ne vais pas le laisser tomber. Maintenant, chacun est libre de faire ses choix, vous me comprenez? Mais quand on a des amis, quand on a une famille, quand on est ensemble, on veille les uns sur les autres. Ce matin, peut-être que tu souffres de solitude, que tu as besoin de quelqu'un à tes côtés. Peut-être que toi, tu vas bien, mais je te demande, je te pose la question, y a-t-il quelqu'un dans ton entourage qui est en train de glisser, que tu as besoin d'aller chercher? Y a-t-il quelqu'un cette semaine que tu as besoin d'envoyer un texto, d'écrire un petit message, un petit coup de fil, de débarquer à l'improviste chez eux pour aller voir comment qu'il va, comment qu'elle va? C'est ça l'Église. On est un corps, On veut être soudés. On va être soudés, serrés les uns envers les autres. Combien ça vous tente d'avoir une église comme ça? Tu vois vos deux mains? Yes! Donc, le texte n'est pas fini. Hein? Je vous l'avais dit que ça devenait hot, ça s'en vient hot pour vrai. Verset 20. « Puis, il ordonna à quelques soldats particulièrement forts de son armée, il aurait sûrement demandé à moi, là, de son armée, d'attacher Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent alors attachés, habillés de leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements. Ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. » S'ils étaient si habillés, c'est qu'on pense que le roi voulait qu'ils flambent vraiment, que tous leurs vêtements, tout ça, qu'ils pognent en feu, là, que ça soit vraiment comme intense l'affaire. Et comme l'ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Les gars costauds, là, costauds comme moi, qui sont arrivés puis qui ont pitché les trois dans la fournaise, ces gars-là sont morts, brûlés, pour vous dire à quel point le feu était intense et le feu était chaud. Quant aux trois hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Aïe, aïe, aïe. Ils ont été pitchés là-dedans. Ils sont dans le feu, là. Verset 24. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté trois hommes ligotés au milieu du feu? » Ils répondirent, « Certainement, roi. » Il reprit, « Eh bien, j'aperçois quatre hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le quatrième ressemble à un fils de Dieu. » Wouh! Frissons, hein, vous autres aussi, hein? Imaginez, là, la scène. Les gars, ils se tiennent pour Dieu. Ils disent, « Dieu peut nous délivrer, mais au pire, on meurt, puis on n'obéit pas on se prosterne pas devant ta statue. » Là, ils sont dans le feu, et là, Dieu intervient. Imagine le roi, là, qui devait être comme, « Tiens, ils vont payer, eux autres. Ils n'ont pas voulu se prosterner, ils vont payer. » Là, je ne sais pas trop comment était faite la fournaise, mais il devait avoir une bay window dans la fournaise parce qu'il a vu ce qui se passait. Fait que, où il y avait un écran, comme tu sais, quand les bébés pleurent, là, le petit écran, le petit moniteur. En tout cas, il a vu qu'il n'y avait plus trois personnes dans le feu. Il était rendu quatre. Puis non seulement il était quatre, mais il n'était plus attaché, puis il se promenait librement dans le feu, sans blessure, sans rien. Incroyable! Quel miracle! Dieu, c'est vraiment fort ce que Dieu a fait. C'est le même Dieu que vous servez, là. Le même Dieu qui est dans votre cœur, qui vous a sauvé de la mort, de l'enfer, qui vous aime, qui est là. Ce même Dieu habite en vous. Ce même Dieu qui a libéré, qui a sauvé de façon miraculeuse, extraordinaire, Shadrach, Meshach et Abednego, est le Dieu qui habite en vous. C'est un Dieu libérateur et présent dans l'épreuve. Je vais le répéter parce que tu as besoin de l'entendre ce matin. Nous servons un Dieu libérateur et présent dans l'épreuve. Dans la Bible, on voit que Dieu a délivré son peuple à plusieurs reprises. Il est un Dieu libérateur. Verset 26, ça dit ceci, « Nebuchadnezzar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut. » Ah oui, là, c'est rendu serviteur du Dieu Très-Haut, hein? « Sortez et venez. » Shadrach, Meshach et Abednego sortirent alors du milieu du feu. Les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé. Moi, je n'aurais pas eu ce problème-là, là. Que leur habit n'était pas abîmé et qu'ils ne sentaient même pas le feu. C'est quand même fort, là. Tu sais, moi, je vais sur le bord d'un feu de camping, là, puis une demi-heure après, là, je sens le feu. pendant 24 heures jusqu'à temps que je me lave, là, je sens le feu d'aplomb. T'as déjà vu quelqu'un qui a passé du temps sur le bord d'un feu? Et comment vous aimez ça, faire des feux dehors? C'est le fun, même en hiver, un feu. C'est le fun de faire un feu, c'est rassembleur, un feu. Moi, je vais sur le bord du feu, je sens le feu. Mais eux étaient dans une fournaise ardente, chauffée cette fois plus que d'habitude, puis ils sentaient même pas le feu. Dieu libérateur, Dieu qui est capable de le délivrer, Dieu qui fait des miracles, Dieu qui est extraordinaire. Et aujourd'hui, tu as besoin de l'entendre. Dieu peut te délivrer de la situation dans laquelle tu es. Il a délivré Noé du déluge. Il a délivré Moïse et son peuple de l'esclavage des Égyptiens. Il a délivré Lot et ses proches du jugement de Sodome et Gomorrhe. Il nous a délivrés d'une vie de perdition. Il nous a délivrés d'une vie où nous étions destinés à la mort et à l'enfer. Il nous a sauvés. Il nous a délivrés. Il est un Dieu libérateur. Je suis tellement béni que le Seigneur m'a sauvé. Hein, le texte ici est une image du salut. Alors, on était destinés à être dans le feu. Mais le Seigneur nous a sauvés du feu. Le Seigneur nous a délivrés. Le Seigneur nous a donné la vie. Et peut-être que tu traverses une épreuve aujourd'hui. Et j'aimerais te dire, Dieu peut te délivrer. Et j'aimerais te dire, Dieu est avec toi dans le feu. Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. On a vu ici qu'il y avait un quatrième homme qui était là, qui avait l'aspect de fils de Dieu, un ange qui était avec eux, qui était là dans le feu avec eux. Et tu n'es pas seul dans ta souffrance. Tu n'es pas seul dans ton problème. Tu n'es pas seul dans ta difficulté. Tu n'es pas seul dans ta dépendance. Dieu est là près de toi. Dieu t'aime. Dieu est présent. Tu as besoin de te le faire rappeler peut-être ce matin. Dieu est là. Dieu peut agir. Dieu veut agir. Il est présent. Il est avec toi. Il ne te laissera pas tomber. Il ne t'abandonnera pas. Soit qu'il te délivre du feu ou pas, nous, on veut le servir. On veut être fidèle pour lui. Ça lui appartient de nous délivrer. Mais le Seigneur ne t'abandonnera pas. Il ne te laissera pas tomber. Il est présent. Il est là. Matthieu 28, 20 nous dit, « Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Il est là avec toi. Il est le Dieu libérateur. Je ne sais pas à quand remonte votre plus vieux souvenir. Bonne question, hein? Réfléchissez à ça. C'est quoi mon plus vieux souvenir? Certains vont me dire, moi, je me rappelle quand j'étais dans le ventre de ma mère. Non, je ne pense pas. Je me rappelle, j'étais dans le ventre de ma mère. Non, non, non. Un de mes plus vieux souvenirs, c'est que j'étais en maternelle. J'en ai d'autres avant aussi, mais j'étais en maternelle. Et à l'époque, une des choses qu'on devait faire, c'était de boire du lait. Vous vous rappelez de ça, hein? Les berlingots de lait. OK? On offrait ça dans toutes les écoles. Et là, c'était mon tour d'aller chercher la caisse de berlingots de lait. Et là, j'étais avec un petit ami en maternelle. On marchait dans l'école, puis on arrive devant l'immense frigidaire, immense industriel. On ouvre la porte pour aller prendre les berlingots de lait avec là. Pour avoir les berlingots, moi, je rentre dans le frigidaire pour prendre le berlingot, et là, la porte s'est refermée sur moi. Et là, petit coco de la maternelle, hyper sensible en général, qui pleure à rien, et là, qui est dans un frigidaire, dans le noir absolu, dans le froid glacial, j'ai paniqué, mes amis. J'ai paniqué, je me suis mis à pleurer, je paniquais, je pensais que j'allais mourir dans un frigidaire. J'allais passer ma vie au froid et dans le noir, comme ça. Et je paniquais vraiment. Ça m'a marqué, le point que je me rappelle encore, là, quelques années plus tard. Et là, mon collègue maternellois a fait quelque chose d'héroïque, parce que je n'étais pas capable d'ouvrir la porte de l'intérieur. Je poussais, j'étais pogné dedans. Tu sais, la succion, tu sais. Et mon ami, la maternelle, a ouvert la porte. J'ai revu la lumière, j'ai revu la chaleur et le soleil. Et ma vie n'a plus jamais été la même, non? Je me rappelle, on marchait avec les berlingots de lait, puis là, je pleurais dans le corridor comme un petit enfant de maternelle. Puis je me souvenais qu'il y avait un policier dans l'école, je ne sais pas pourquoi. Je me disais, hey, pleure pas, petit gars. Non, c'est pas drôle. Et ce jour-là, j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur. Mais il y avait quelqu'un qui m'a délivré de ma noirceur. Quelqu'un qui est venu me sortir du froid dans lequel j'étais, qui a ouvert la porte. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, Dieu est un libérateur. Il ne te laissera pas dans un frigidaire fret, ni dans le feu. Il t'aime. Il veut prendre soin de toi. Il veut, il peut te libérer. Est-ce que je peux entendre un amen? J'arrive à la fin du message. On va lire les derniers versets du chapitre. Tu peux revenir, Will. Verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu. » Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation ou sa langue, parle de façon légère du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, il sera mis en pièces. Et sa maison sera transformée en un tas de décombres. En effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. Ça, c'est le roi qui dit ça. Je répète cette phrase-là. Il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. Laisse ça entrer dans ton cœur ce matin. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar adressa ce message aux hommes de tout peuple, toute nation, toute langue habitant de l'Empire. Que la paix vous soit donnée en abondance. Il m'a semblé bon que de vous faire connaître les signes et les miracles que le Dieu Très-Haut a accomplis vis-à-vis moi, que ces signes sont grands, que ces miracles sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination dure de génération en génération. Et je termine avec cette pensée. On sert le Dieu du big picture. Ça veut dire quoi? On sert le Dieu qui connaît l'avenir. On sert le Dieu qui est au-dessus du temps humain. On sert le Dieu qui connaît toutes choses. Quand Shadrach, Meshach et Abednego ont choisi d'obéir à Dieu, qu'ils ont été jetés dans la fournaise, ils ne savaient pas les répercussions que ça allait avoir par la suite. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer après. Peut-être qu'ils allaient mourir dans leur tête et ils se disaient peut-être que je vais juste mourir et que c'est fini ou que Dieu va nous délivrer, je ne sais pas. Mais Dieu, lui, au travers de cette épreuve, de ce moment-là, avait un plan. Dieu est souverain. Dieu a des plans. Dieu est capable d'intervenir, d'agir et de faire quelque chose de beau avec ce qui est le plus laid. De faire quelque chose de beau avec les pires souffrances qu'on peut vivre. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est un verset qu'on a dit à outrance, de façon un peu religieuse. Mais j'aimerais vous dire que c'est un verset de la Bible et que c'est la vérité. Dieu peut vraiment faire quelque chose de beau, de formidable. Ici, leur épreuve, leur acte de foi, toute cette histoire-là a fait en sorte que le roi a reconnu Dieu. Le roi a même émis et ordonné que tout le monde puisse désormais parler en bien de Dieu, que si jamais quelqu'un parle en mal de Dieu, qu'il soit tué et que même sa maison soit détruite. Je fais une parenthèse, il y a une image là-dedans quand même. Ça marche? Non? Il y a une image là-dedans quand même, c'est que lorsque on choisit de délaisser Dieu, de ne plus craindre Dieu, on voit ici que les gens devaient être détruits puis leur maison aussi, et spirituellement, c'est ce qui peut arriver avec nous aussi. Si on a choisi de ne pas craindre Dieu, de délaisser Dieu, de ne pas le considérer, on s'enligne vers une vie de destruction et même pour notre famille. Cette image-là qui était là. Mais j'aimerais te dire, Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît l'avenir. Dieu rassemble, Dieu orchestre les rencontres, les gens, les éléments. Et Dieu peut se servir. Dieu ne fait pas arriver les épreuves terribles, douloureuses, difficiles. Mais Dieu peut s'en servir pour faire éclater sa gloire. Et aujourd'hui, je pense que Dieu nous a rassemblés pour un moment comme celui-ci, pour faire éclater sa gloire à Drummondville. Dieu a des plans. Dieu a des plans pour nous tous ensemble, comme Église. Et on va terminer en prière ensemble. courber la tête un instant, fermer les yeux. Alors qu'on arrive dans les dernières minutes de ce message, on l'a vu ce matin, que Dieu veut être le seul Dieu dans ta vie. Il demande de nous une adoration exclusive. Et ce matin, il y a peut-être des hommes, des femmes, des jeunes que tu as besoin de faire de Dieu, de faire de Jésus celui que tu aimes, de faire de lui ton seul Dieu, de mettre de côté des éléments de ta vie qui avaient pris trop de place, qui avaient pris la place de Dieu. On a vu également ce matin la force de l'amitié, de l'unité. Et ce matin, peut-être que ce que le Seigneur va te mettre à cœur, c'est de ne plus rester dans ton coin, mais d'aller vers les autres, d'aller vers quelqu'un, de t'ouvrir à quelqu'un, d'oser t'ouvrir, d'oser peut-être inviter quelqu'un chez toi ou de prier avec quelqu'un ou d'aller vers quelqu'un de ton entourage qui s'était éloigné de Dieu, qui a besoin de revenir. Cette pensée que le Seigneur nous appelle à être unis, ensemble. Ce n'est pas un chemin qui est toujours facile, c'est un chemin qui comporte parfois des difficultés, des obstacles, mais nous voulons nous engager dans ce chemin d'unité, d'amitié, d'amour les uns envers les autres. On a vu également ce matin qu'on sert un Dieu qui est libérateur et un Dieu qui est présent dans l'épreuve. Et ce matin, je veux prendre le temps de prier pour des hommes, des femmes, des jeunes qui vivent des épreuves. Tu es actuellement dans une épreuve. Tu es dans le feu. Tu es dans cet espace peut-être de noirceur, de froid ou de feu, mais tu es dans un moment difficile de ta vie. Puis tu te sens seul et tu aurais besoin de sentir la présence de Dieu. Tu aurais besoin de savoir que Dieu est là avec toi. Et ce matin, je ne veux pas te laisser quitter ce lieu sans prier pour toi, sans prier avec toi. Que le Seigneur puisse te relever, te redonner de la force, te redonner de la vigueur, qu'il puisse t'entourer. Et d'ailleurs, mon appel, si tu es dans ce lieu et que tu traverses le feu, que tu vis un moment difficile, alors qu'on a les yeux fermés, la tête penchée, je t'invite à lever ta main et à dire, « Moi, je vis une épreuve en ce moment. Moi, je suis dans le feu, ce n'est pas facile ce que je vis. » C'est douloureux et j'ai besoin que Dieu soit avec moi. Lève ta main devant Dieu maintenant si c'est toi, puis demande au Seigneur son secours, demande au Seigneur son soutien, demande au Seigneur sa présence, demande au Seigneur qu'il intervienne dans ta vie. Et garde ta main levée un instant, s'il vous plaît, parce que ça ne te dérange pas trop. J'aimerais ça que les gens autour de toi puissent prier pour toi un instant, puissent tendre les mains vers toi un instant. Si tu es là ce matin puis que tu ne vis pas nécessairement une épreuve en ce moment, ouvre tes yeux, regarde autour de toi et prie pour les gens qui t'entourent. Prends quelques instants. Tu peux garder tes distances, mais quand même, prie pour les gens qui sont autour de toi. Prends quelques instants ce matin. Prie. Prie pour un frère, prie pour une sœur. Tu peux peut-être mettre ton masque et mettre une main sur l'épaule de quelqu'un si tu veux ce matin, mais prions les uns pour les autres ce matin. Prions les uns pour les autres ce matin. Je veux te dire, toi qui vis une épreuve, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Dieu est là avec toi dans ton épreuve. Il veut te faire sentir sa présence. Tu n'es pas seul. L'Église Nouvelle Vie Drummondville est là avec toi dans ton épreuve. Tu as des frères, tu as des sœurs qui sont là, qui veulent prier pour toi, qui veulent te dire qu'ils t'aiment, qu'ils t'apprécient, qu'ils veulent te supporter, qu'ils veulent porter le fardeau avec toi. Prenons un instant ce matin pour prier. Prie pour les autres. Prie pour quelqu'un autour de toi. Si c'est toi qui veux une épreuve, prie pour toi-même un instant. Seigneur Jésus, Seigneur, on vient devant toi. Seigneur, on vient devant toi. On a besoin de sentir ta présence. On a besoin de voir ta main. Ta main qui libère, ta main qui restaure, ta main qui sauve, ta main qui guérit. Nous servons le Dieu qui guérit de la maladie. Que ce soit une maladie qui soit mentale ou physique, tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui donne de la force à celui qui est épuisé, celui qui est fatigué. Seigneur, tu veux renouveler la force de celui qui n'a plus de force ce matin, qui est à bout de ressources. Tu veux fortifier, encourager. Oh, Jésus, viens ce matin dans ce lieu. Tu es là, Seigneur. Tu es ici. Viens relever. Viens agir.